Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, celui qui prophétise, numéro 2, et nous allons relire les textes de référence qui étaient choisis dans le psaume. Eh bien là, 32, ça servira finalement de repère. Le psaume 32, cantique de David, et il est dit ceci. C'est Dieu qui parle à ce poète David, roi David. Il dit ceci. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride ou on les attache avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Donc, c'était le psaume 32 et le verset 8. D'accord ? C'est réparé ? Bon, c'est bien. Et puis, un deuxième texte qui va nous propulser dans, directement dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 14, 1-4. Et là, c'est l'apôtre Paul qui est finalement le signataire de toutes ces écritures et entre autres, de cette explication de ce qu'est la prophétie. Donc, 1 Corinthiens 14, 1-4. D'abord, l'essentiel, rechercher l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Retenez bien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte, des consoles. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Alors nous avons en effet à travers cette présentation, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais justement par-delà ce que vous avez certainement entendu et que vous pouvez réécouter parce qu'ils vont passer sur... le site, là, Bible Espoir, je voudrais rappeler brièvement les critères de reconnaissance prophétique. Vous savez, je pense que l'Église perd une grande valeur, c'est qu'on entend de moins en moins l'expression des prophéties dans les cultes ou dans les réunions de prière, parce que c'est véritablement le cadre. Et comme cela est noté et expliqué dans les Corinthiens par Paul, nous avons besoin de redonner la vie à ce qui a été véritablement une puissance de réveil pendant les siècles, dans notre temps, dans les 50 dernières années, et aujourd'hui on s'aperçoit que là, véritablement c'est quelque chose qui s'écoule tranquillement, mais qui n'a plus véritablement pour les chrétiens d'aujourd'hui de valeur. Et c'est une grande valeur, parce que quand on parle de dons spirituels, ce sont les dons de l'esprit. Et qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est pas la chair, c'est pas finalement l'affect de nos âmes, mais c'est l'esprit. Alors je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, comme cela est véritablement bien expliqué à travers la plume de l'apôtre Paul, et il nous faut aujourd'hui de retrouver ce sens des choses, ou alors nous serons toujours à l'écoute de Dieu, et quelque part Dieu va finalement plus rien dire à l'Église, parce que on n'y croit plus. Et ça, c'est véritablement la caractéristique de beaucoup de religions aujourd'hui, sur un autre point, parce que nous sommes des chrétiens charismatiques évangéliques, alors c'est un petit peu notre apanage, c'est un petit peu finalement, eh bien, ce que nous revendiquons parce que nous le croyons. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on s'aperçoit que chez d'autres dénominations, appellations chrétiennes, eh bien, il y a d'autres points comme ça qui diminuent tout ça. Et vous savez dans quel monde on est. Le monde de l'athéisme, dans notre pays en tous les cas, hein. Et puis dans d'autres pays, sous différentes présentations, eh bien, là, c'est autre chose de la doctrine. Alors, c'est quelque chose donc d'important. Et moi, je pense qu'il est nécessaire que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions jeter un nouveau regard d'étude, parce que c'est une étude hein, que j'ai faite, eh bien, véritablement dans ce domaine. Critères de reconnaissance prophétique. Je dirais que les auditeurs que nous sommes, l'auditeur auquel s'adressait peut-être Paul, doit reconnaître la véracité de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas de l'impression. Ce n'est pas finalement eh bien, pour faire bien, pour meubler quelque chose, un culte ou autre chose. Mais véracité, ça vient et ça donne l'idée de vérité. Ah oui, ça c'est quelque chose. La vérité de la prophétie, si elle vient de Dieu ou si elle vient d'ailleurs. Et vous savez que dans les dons spirituels, il y a eh bien, le discernement des esprits. Alors Dieu, on ne le voit pas. Les hommes, on les voit. Mais le diable, on ne le voit pas non plus. Enfin, il fait ses mauvais coups comme ça en douce, mais on le sent hein, de toute manière. Donc, il faut déterminer, reconnaître, si véritablement, quand Dieu me parle, alors il me parle de mille et une façons. Hein. Et c'est curieux parce que dans le livre là de l'Ancien Testament, il nous est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, et vous n'y prenez pas garde. C'est ça la question, c'est ça le drame en quelque sorte. Donc, savoir si, quand Dieu me parle, eh bien, ça vient de lui, ça vient de l'homme avec son côté charnel, et même s'il parle au nom de Dieu. Voilà, l'homme qui peut parler au nom de Dieu parce qu'il a je ne sais quelle pensée, et il veut la partager avec d'autres, il veut la partager avec ses frères et sœurs. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de véracité. Et voilà le principe immuable de reconnaissance. Celui qui prophétise, écoutez bien, parce que ça c'est le critère, le cadre, c'est la structure, c'est l'architecture. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ce n'est pas pour dire du mal, ce n'est pas pour dire des falaises, ce n'est pas pour faire rêver. Non, il édifie l'Église, c'est-à-dire il parle en bien, mais un bien divin. Comme le miel et les mièvries de l'homme avec ses sentiments, ses émotions, etc. On n'a que cure hein, de cela, parce que ça existe. Hein. Donc, il édifie l'Église, qui va en recevoir l'édification. Je relis. Celui qui prophétise édifie l'Église, qui en reçoit l'édification. Et à travers un don spirituel, à travers un don de prophétie, combien de fois, dans nos tristesses, dans nos pleurs, dans nos angoisses, nous avons été rassénérés, nous avons été encouragés, nous avons été, eh bien là, nous avons reçu quelque chose qui nous a fait repartir. Ouais, parce que Dieu parle. Et Dieu fait du bien. Donc, celui qui prophétie édifie l'Église, et l'Église en reçoit édification, sans que, quelque part, l'Église qui a reçu l'édification pense que celui qui a prophétisé, c'est quelqu'un de supérieur. Il n'est pas plus spirituel, il n'est pas plus malin que quelqu'un. Non, il est un agent, c'est tout. Hein. Quelquefois, dès qu'il y a un petit peu de surnaturel, bon, on prend les gens pour des demi-dieux, en quelque sorte. Alors ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors donc, on en est là. L'exercice, l'exercice de la prophétie doit se manifester en public. Je vais vous dire pourquoi. On est en public, là. Même si on n'est pas beaucoup. Mais toujours est-il qu'il y a plusieurs oreilles qui entendent. Hein, avec nos caractères, notre compréhension que nous avons à chacun, qui nous est personnelle, naturellement. Manifester en public, devant l'Assemblée réunie, mais jamais en privé. Les petites tambouilles, excusez-moi l'expression, que quelquefois certains chrétiens se délectent en allant prendre le thé, le café, vous prenez ce que vous voulez, hein, même si vous voulez prendre un verre d'eau de vie, c'est... Alors là, vous allez certainement prophétiser. Hein. Mais toujours est-il que ce soit tout seul. Alors, c'est naturellement en public, mais jamais mes frères en privé en disant « Tiens, on va passer une petite réunion de prière, on prendra du petit gâteau, etc. etc. » Et là, j'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Peut-être certains diront « Voilà, vous savez, j'ai reçu ça cette nuit, j'ai vu le ciel ouvert, Dieu m'a dit que pour toi, il m'a dit ceci et cela. » Non, il faut que ça soit véritablement vérifié par tout le monde. Ça, c'est finalement des fonds de cuisine. Ah oui, et ça fait du mal. Et surtout, vous allez voir, surtout, il faut le dire, donc, avec cette recommandation que les autres puissent juger la prophétie, ils puissent la juger tout simplement, eh bien, pour dire c'est vrai ou c'est faux. Nous avons un rôle de jugement de la qualité spirituelle, ou non, ou charnelle, ou quelquefois discernement diabolique, que finalement ce qui a été dit, ça vient du diable, ça vient des hommes, et là peut-être dit finalement que ça ne vient pas de Dieu. Alors que quand un homme est spirituel, une assemblée spirituelle, elle va dire non, c'est faux, on le met de côté. C'est pas la peine, tout ça ce sont des balivernes, on peut le dire. Excusez-moi, les mots vont être un petit peu, parce que vous savez, on a eu à lutter pendant des années, avec des chrétiens qui se croyaient finalement, et eh bien là, au-dessus des autres, qui pensaient être supérieurs, et qui à chaque culte, ou de temps en temps, peut-être, eh bien, venaient en disant « moi j'ai quelque chose à dire ». Ou alors ils ne demandaient pas « j'ai quelque chose à dire », ils le disaient, et ça troublait l'Église. Priez donc pour que nos pasteurs puissent véritablement savoir ce qui est vrai, ce qui est bien. Retenez ce qui est bien, et rejetez ce qui est mauvais. Voilà, donc c'est ça ce qui fait la crédibilité. Pas de réflexion, de révélation prophétique quasi secrète. Oui. Surtout, ne le dites pas à personne. Pour n'en souffler mot à personne. Moi, je vous disais ça, mais c'est le grand secret de Dieu. Alors attention, hein. N'allez pas souffler ça et le répandre, parce que bon, voilà. Donc, il y a cela. Pas de révélation prophétique. Pour ce qui est des prophètes, il est dit dans une assemblée que deux ou trois prophétisent. Pas la peine d'avoir finalement, eh bien là, un 30 ou 40 personnes dans un culte, parce qu'on n'est pas sorti. Hein. Et moi, je ne serai pas alors à mon repas ce midi. Hein. Alors, mais non, non, que deux ou trois jugent la conformité de l'Écriture sainte, cette consigne en catimini, ne dites rien surtout, hein, c'est entre vous et moi, etc., hein, impliquant que nous ne recevions jamais ce message lorsque nous sommes dans l'isolement. C'est dans l'ensemble d'un culte ou d'une réunion de prière où nous sommes quelques-uns, ou que nous sommes nombreux. Ouais, ça, il faut le veiller, il faut veiller. Parce que on s'aperçoit que tout cela est nécessaire. Vous savez, c'est dans le nombre des conseillers qu'on connaît la vérité et la justice. C'est écrit ça aussi. Alors, pour que nous fassions preuve d'estimation de la qualité des choses, d'accepter ou de refuser. On a dû quelquefois intervenir, mais de le faire, nous les pasteurs, de le faire avec beaucoup de tact, parce que c'est pas la peine de le rendre public. Voilà, le frère, il raconte des histoires, c'est pas la peine de le dire, c'est pas la peine de l'humilier. Et après, de lui dire, et de pouvoir reprendre les thèmes que je suis en train de développer, de dire, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Alors c'est vrai que nous avons des chrétiens de différentes origines évangéliques. Ou alors, eh bien, vous avez certainement entendu parler des folies de Toronto. Hein, bon, on peut toujours vous donner l'explication. Où les gens sont tellement excités par le spirituel, par du mysticisme, qui marchent au plafond, qui racontent n'importe quoi, qui font des cris d'animaux, toutes sortes de choses. C'est pénible, hein. Parce que quand ils sont nombreux, je peux vous dire qu'il faut tenir les rênes de l'Église à ce moment-là. Mais en tous les cas, il faut les prendre et leur dire non. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'ils viennent de différentes cultures. Vous savez, la culture africaine, elle n'est pas la même que celle qui est en France. Et puis la culture américaine, c'est pareil. Et pourtant, ce sont des évangéliques. Là, il faut se tenir. Parce que il y a tellement de puissance, faut faire attention. Combien de croyances sincères sont restées sous le coup d'une révélation hors assemblée? parce qu'on les a pris de côté, on les a fait venir à la maison, on leur a donné une révélation en disant « Mais le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a... Ben, » vous savez, moi, ce que je dis, que si le Seigneur veut me montrer quelque chose, il va me le montrer à moi. D'abord, hein, pour que quelqu'un vienne me voir en disant « Si j'ai quelque chose. » Alors, faites attention à cela. Hein. Ou alors, s'il ne le me dit pas directement, le Seigneur, il va me préparer mon cœur à recevoir la prophétie. Voilà. Et je vais dire « Oui, c'est ce que j'ai déjà pensé. » Parce que c'est pas le contraire. Hein. C'est pas le contraire. Alors, beaucoup de chrétiens qui ont été confrontés à cela, eh bien, hors assemblée, donc, ce sont des frères qui vont rester tourmentés, qui vont être culpabilisés, n'ayant pu ou ne voulant pas partager, eh bien là, leur trouble et leur confusion incitent de témoins fiables. Parce qu'ils vont avoir honte à ce moment-là, ils vont dire « mais j'ai entendu des choses, et si je commence à, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Que je suis tout simplement, eh bien, nié, hein, on disait pour certaines autres choses, un gogo, hein ?» Un béni oui-oui. Voilà, c'est tout un vocabulaire. Nous avons besoin de remarquer quelque chose, c'est qu'il faut ajouter ceci, que tous les messages par prophétie ne sont pas uniquement pour soi. Je suis à l'église, mais le Seigneur ne parle qu'à moi. Bon, évidemment. Ça vous rappelle, vous savez, ce qui dit, moi je suis... Hein, je suis ceci, je donne ma dîme de tous mes biens, etc. Ça, faut faire gaffe aussi. Hein. Qu'il est uniquement pour nous, qu'il parle qu'à moi, à chaque fois, toute l'année et à chaque culte. Ça fait beaucoup pour un seul homme, non ? Il y a des gens qui disent, mais le Seigneur ne me parle qu'à moi. Eh bien, vous vous trompez, hein, parce qu'il peut parler aux autres. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur des autres. Alors, pour mieux dire, merci Seigneur, tu m'as parlé. C'est vrai, je le reconnais, mais je ne pense pas être le seul. Hein. Une prophétie, ça peut couvrir finalement toute une assemblée dans certaines situations, tout simplement. La prophétie doit confirmer la chose, le sujet, l'objet dont Dieu nous a déjà mis à cœur. Vous savez, on porte les uns et les autres quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas du rêve, mais c'est des sentiments au niveau de notre cœur, hein, au niveau de notre conviction. Qu'il y aura ceci, il y aura cela, ça viendra, hein, et souvent à travers le temps, le long temps. Mais on le porte. Quelquefois, il y a des vrais, surtout pour le ministère. Hein, il y a des choses où Dieu vient nous dire, mais nous ne sommes pas prêts pour les entendre. Nous sommes encore que des élèves, des apprentis, des petits. Alors, il laisse le temps, mais on se dit, oui, il y avait bien quelque chose. Moi, je sais que quand je vivais à Amsterdam, pendant 2 ans, j'ai eu vraiment une conviction, moi qui voulais être curé, mais je voulais me marier, alors j'ai dit niette, pas, voilà. Mais je savais à l'intérieur de moi-même, puisque je fréquentais déjà les églises protestantes néerlandaises, eh bien, je sentais qu'il y avait quelque chose, un appel, et un appel pour mon pays, pour la France. Et je crois que ça c'est important, donc voilà, ça doit confirmer une chose que Dieu a mise dans mon cœur, c'est pas tapageur, hein. Mais quelquefois, ça nous fait souffrir, parce qu'on se dit, mais Seigneur, quand ? Comment ? Comment tu vas faire ? Et qu'est-ce que je dois faire ? C'est très imprécis, dont Dieu nous a déjà mis à cœur, et non le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas à la prophétie de déterminer un appel ou une direction spirituelle, ou un choix. Elle intervient pour toujours nous confirmer. C'est le moment, nous dit Dieu. Vas-y, prépare-toi. Tu vas faire encore quelques marches. Et puis à un moment donné, eh bien, moi je vais t'appeler officiellement devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle un appel. Où ça va se révéler tout simplement parce que cet appelé va naturellement, eh bien là, à un moment donné, eh bien, sentir que tous les autres qui appellent ce novice ou cet apprenti, eh bien, il a véritablement un ministère. Ça se reconnaît à travers tout simplement la prédication qu'il donne. En disant, ben voilà. Il va rentrer parce que je pense qu'il est. Il est propre, et bien là, à pouvoir bien parler. Regardez, vous avez dans le livre des Actes quelque chose, un appel de Dieu. Dans Actes chapitre 13, et au verset tout simplement premier, je lis, hein, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, ça c'était des ministères, dont, voilà, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Ménachem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, c'est exprimé par une prophétie, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir pour la mission que Dieu leur avait donnée. Ouais, ça se fait comme ça, tout simplement. Et vous remarquerez que, eh bien, ça s'est réalisé, tout simplement, tout simplement. Et vous avez vu, il y avait, c'était pas une grande foule, hein, mais il y avait déjà des ministères dont qui étaient là. Il y avait certainement dans l'assemblée, dont la ville dont nous avons cité le nom, eh bien, il y avait certainement du monde. Et là, tout le monde, unanimement, on dit, oui, l'apôtre Paul, pour ne parler que de lui, oui, vraiment, il a un ministère. Et pourtant, il avait un lourd passé, Paul, hein, de persécution des autres. Ouais, et pourtant, Dieu a confirmé. Et Paul a porté cela pendant certainement, eh bien, pas mal de temps. Je pense que Dieu donne bien nos âmes, dans nos sentiments, une espérance propre qui va finalement éclore. Et il y a un rappel insistant, parce que la prophétie rend témoignage et confère une certaine paix et un repos. Après avoir été tourmenté de savoir si Dieu me parle ou ne me parle pas, quelle est la mission qu'il me dédie, en quelque sorte, on pourrait dire. Eh bien, nous voyons que ça va créer en nous une paix, le calme et l'assurance. Chose aussi qu'il faut veiller, la prophétie dans une communauté évangélique, eh bien, la prophétie ne doit pas s'exercer dans le désordre. Vous savez que quand Jésus est rentré dans le temple, c'était quand même le champ de foire. Hein. C'était la foire de Paris, enfin la foire de Jérusalem, comme aujourd'hui. Hein. Enfin. Donc, la prophétie ne doit pas s'exercer dans le désordre, le brouhaha et l'hystérie. Nous, on s'est trouvé quelquefois, et surtout dans les camps de vacances, parce que bon, c'est des jeunes, hein, il faut bien que... Quelquefois, on se dit, mais... Bon, c'est des jeunes, ça passe, pas de problème. Mais quand vous avez une église avec des adultes, et que ça part dans tous les sens, que finalement, on se contredit les uns les autres, il y a du brouhaha, il y a des cris, il y a toutes sortes de choses. Moi, dans une assemblée comme ça, je reste pas. Hein. Je m'en vais. Hein. Parce qu'on ressent un malaise. Et dans le ciel, c'est la paix. Ouais. Alors sur la terre, dans le monde, finalement, eh bien, des enfants de Dieu, authentiquement enfants de Dieu, c'est toujours, eh bien là, quelque part, quelque chose qui se fait dans... Eh bien, le calme, dans l'assurance. À travers le brouhaha, à travers l'hystérie, parce que quelquefois on se demande si certains faux prophètes ne veulent pas trop mettre dans de l'ambiance. Et ça finit tout simplement, eh bien, par des choses qui vont fuir les nouveaux. D'abord, ils vont fuir les nouveaux, parce qu'ils se disent, si c'est comme dans le monde, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est sûr. À Samarie, Dieu dit, Samarie c'est dans l'Ancien Testament, Dieu dit, j'ai vu, c'est Dieu qui dit, hein, en parlant de tous les bouleversements qu'il peut y avoir, Dieu dit, j'ai vu l'extravagance, ils ont prophétisé par de faux dieux. Vous l'avez ça, vous pourrez le relire hein, dans le texte. Hein. C'était, je pense, du temps d'Élie avec les prophètes de Baal, oui, qui se faisaient des incisions, qui criaient à qui mieux, qui étaient là en train de raconter des fadaises, toutes sortes de choses. Oui, oui. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui discrédite l'Église, la foi, la véritable croyance. Et il ajoutera, ils ont égaré mon peuple. C'est pas parce qu'il y a du bruit, c'est pas parce qu'il y a des gesticulations, c'est pas parce que les gens hein, se traînent par terre, hein, crient toutes sortes de bruits d'animaux, des choses comme ça, que c'est spirituel. Au contraire. Vous savez, dans les manifestations occultes, où il y a véritablement eh bien, une mainmise satanique. Ben, c'est ce qui se passe. Moi, quelquefois, je me pose la question, si dans elle, les Hellfest, vous comprenez, elle, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Le diable, c'est l'enfer. Hein. Ben, quelque part, je me dis, c'est fou. Hein. Vous savez qu'il y a des choses que l'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai regardé un reportage sur ce qu'on appelait dans le temps les grands-mères, c'est pas les grands-mères, mais les grands-mères disaient, ils ont la danse de Saint-Guy. Vous savez, vous l'avez vu, la chose, ben, ça vaut la peine. Parce qu'on s'aperçoit que depuis, dans notre société d'aujourd'hui, oui, celle dans laquelle nous vivons, quand il y a ce genre de... Même dans les manifestations politiques, hein, même dans toutes sortes de choses, ils sont tous en train de tourner, ils galopent, ils se montent les uns sur les autres, etc., etc. Moi, je me dis, il y a une emprise derrière. Ouais, la danse de Saint-Guy. Et ça, c'est une vieille histoire de 1518 à Strasbourg, hein, qui s'est répandue dans le monde entier. Voilà. Et les psychiatres viennent de découvrir qu'il y a quand même quelque chose, voilà, qui n'est pas très très bon. Alors le brouhaha, l'hystérie, j'ai vu l'extravagance, eh bien, de mes prophètes. Alors, faisons attention parce que c'est important. Tous les enseignements de la parole de Dieu sont clairs et nous les avons dans notre Bible. Il suffit de lire, tout simplement. Et puis de les retenir, parce que c'est pas seulement de lire, mais de croire que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et il nous prévient, il nous met en garde, il nous dit attention à tout ça, parce que ça existe dans le monde, mais attendez de ne pas dériver, hein, vous aussi. Sous couvert de religieux, sous couvert de croyances, sous couvert finalement, eh bien, vous faites les choses pour la gloire de Dieu, vous ne faites pas la gloire de Dieu. Vous le discréditez, lui et sa parole. Il est dit, alors nous l'avons lu, aspirez au don de prophétie. Oui, Seigneur, ça fait partie finalement de vos réunions de prière. Priez pour qu'il y ait plus de prophéties. Priez pour qu'il y ait plus de dons spirituels. Priez que vous-même et d'autres puissent, eh bien, avoir véritablement envie de revivre ce souffle de l'esprit dans l'authenticité, dans la vérité. Aspirez aux dons spirituels, mais que tout se fasse avec bienveillance. Si c'est pour régler le compte de votre frère ou de votre sœur, ben, taisez-vous. Ouais. C'est peut-être abrupt ce que je suis en train de... Mais taisez-vous, c'est pas la peine de ramener... ce que vous avez, parce que ça n'édifie pas, ça, quelque part, ça contrarie. Faites tout avec bienséance et avec ordre, sans vanité d'orgueil, en sortant du culte et en vous montrant presque à la porte en disant « Est-ce que vous avez entendu mes prophéties? Est-ce que vous avez vu combien je suis spirituel ?» Pharisien, dehors. Oui, les pharisiens, c'était ça. Je donne la dîme de ceci, hein, je fais les offrandes, je donne dans le, vous savez, le petit bénitier là, voilà, bon, peu importe. Mais toujours est-il que c'est pas la peine de se gonfler. S'il y en a un qui doit être glorifié, c'est Dieu, c'est pas nous. Amen. Et tout se fait finalement au nom de Jésus. Alors, la pureté relative du canal humain, c'est-à-dire de chacun, parce que faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein. Nous sommes des... Non pas des saints, nous sommes en voie de sanctification, nous sommes des sanctifiés parce que nous croyons que Jésus, lui, a payé le prix pour nous à la croix. Alors donc, la pureté qui reste relative du canal humain, la vie de celui qui prophétise, s'entend d'être moral. Et c'est pourquoi quelquefois on a fait des découvertes terribles, hein. Quelqu'un qui prophète à tort et à raison, etc., etc. Et quand on découvre qu'il est voleur, qu'il est adultère, ceci et cela, parce que ça marche bien ensemble, hein, quelquefois, hein, pour la poudre dans les yeux, vous savez. On l'a vu, ça, hein. On a vu quelquefois des trésoriers mettre la main dans le dans le trésor. Hein. Moi, je me souviens toujours de pasteurs qui ont dit, mais jusqu'au jour où. Et pourtant, c'était un expert, c'était un champion de la prophétie et... Voilà, jusqu'au jour où, puis avoir une double vie, etc., etc. Non, eh bien, ça demande une conformité morale avec ce que déclare au nom de Dieu. Et si on parle de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il faut s'éloigner de toute iniquité. Vous connaissez cet écrit. Ouais, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il ne faut pas en mettre plein la vue, nos frères, en pensant parce qu'ils prophétisent. Parce qu'ils donnent des choses, quelquefois, qui peuvent être... vraiment vrai, eh bien, faut aller plus loin, parce qu'il faut pas seulement les dons spirituels, mes frères et sœurs, il faut également les fruits. Et les fruits, c'est l'amour. Les fruits, c'est la douceur. Les fruits, c'est véritablement, eh bien, la foi, c'est la patience, c'est la bonté, c'est ceci et cela. Mais pas une mauvaise langue, pas de la critique, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine. Ah oui, ils prophétisent bien. Mais alors, disons, qu'est-ce qu'il met par derrière, hein? Excusez-moi, hein, parce que j'ai pas l'habitude de siffler dans le micro. Mais Bon, j'espère que ça vous... Je suis assez libre, hein. Excusez, voilà, bon. Alors, il y a souvent mélange et personnalité. Oui, souvent du mélange et une personnalité. Et je crois qu'il faut veiller, sans faire comme les pharisiens qui étaient des... Comment ça s'appelle ? Qui étaient jusqu'au bout des ongles, eh bien, des jugeurs, des... Comment pourrait-on dire ? Des juges, quelque sorte. Alors, nous avons tous un caractère. Et nous avons tous reçu une éducation. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de tout dans tout ça. Et c'est pas pour ça que finalement il faut arrêter tout. Parce que bon, dans Matthieu, c'est là où on peut le juger, dans Matthieu, chapitre 7, il est donné cette parole qui est quand même assez intéressante, et vous la connaissez parce qu'elle fait partie du sermon sur la montagne, 7 et verset 22. Et Jésus dira, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il y en a beaucoup hein, entre nous là, oui ?» Mais soyons dans le vrai. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tiens, c'est curieux, parce qu'on savait que normalement, à partir du moment où on croit en Dieu et en Jésus, on va rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, d'accord. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça la question. Si je suis un transfuge, si je suis un contradicteur, si je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu, c'est même pas la peine de penser à aller plus loin. Plusieurs me diront en ce jour-là, dit Jésus, « Seigneur, Seigneur, ça fait deux fois, hein, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Tiens, oui, tu sais Seigneur, tu peux nous prendre dans ton ciel, hein, on va en raconter des choses là-haut. N'avons-nous pas prophétisé ? J'ai fait 30 ans de prophétie dans l'église, et tout le monde me reconnaissait comme un bon prophète, un grand prophète. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons ? Ça, ce sont les exorcistes. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? C'est pas le miracle qui accrédite. Non, c'est pas parce qu'il y a des miracles que nous devons. C'est notre vie de sanctification. C'est prouver notre nouvelle naissance, notre régénération en produisant des fruits dignes de la repentance et de pouvoir bien véritablement être reconnu pour des valeurs morales et non pas parce que ce que nous faisons. C'est pas les choses que nous faisons qui sont importantes. C'est ce que l'on est soi-même. Hein? Qu'on est soi-même. Alors je leur dirai, dit tous ces faux prophètes et tous ces énergumènes, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh oui, dans l'Église, à un moment où nous avons été appelés, où nous avons été baptisés, à travers les promesses que nous avons faites devant l'Assemblée, là aussi, en public, eh bien, nous devons véritablement demander l'aide de Dieu, parce que nous ne serons jamais capables, nous-mêmes, que Dieu nous donne la force, eh bien, d'avoir un bon témoignage, une bonne réputation, et non pas une réputation de prophète, non pas une réputation de dire des choses qui sont absolument quelquefois secrètes pour les autres, et de dire « moi, j'ai trouvé le secret ». Alors, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il s'illusionne lui-même, et il égare les autres. Deux fois, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et Dieu va leur répondre ce qu'ils sont profondément. Autre discernement indéniable, l'esprit de la prophétie. Je vais vous dire ce que c'est l'esprit de la prophétie. Prophétie. C'est dans Apocalypse chapitre 19, vous verrez, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est là, il est partout, il est en tout, il est surtout. Ouais. N'allez pas prophétiser par Mohamed. Vous connaissez Mohamed ? Oui. Et par tous les faux dieux du ciel et de la terre, inventés, créés, comme les Hébreux ont créé le veau d'or, et qu'ils ont dit, ben maintenant prosternons-nous, adorons-le, voici votre Dieu, peuple d'Israël. Eh bien, vous savez, des gens qui viennent et qui vont, parce que il y a des prophéties hein, dans l'islam, il y a des prophéties dans toutes les religions, dans le, comment ça s'appelle, dans le bouddhisme et dans tout ça. Il ne faut pas vous faire d'illusions, il n'y a pas que le christianisme. Je vais terminer. Imprégnation du Saint-Esprit et surtout du caractère de celui qui l'inspire, c'est-à-dire Jésus. Nous devons porter, finalement, eh bien, la personne de Jésus. Nous devons avoir à l'intérieur l'imitation de Jésus-Christ. Il est « Je veux être comme lui ». À travers cette présence de Christ dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, dans mon esprit, dans ma volonté, dans mon intelligence, pour que les gens disent, ça, c'est un disciple de Jésus. Ouais. Et c'est la plus belle de toutes les prophéties, car il n'y a pas été donné sur la terre un autre nom que le nom de Jésus. Et là, il est au cœur de la prophétie. Et c'est ce que nous dit Apocalypse, finalement, chapitre 19. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est être comme Jésus est. Et qu'est-ce que Jésus nous dit à ses disciples et à nous d'aujourd'hui? Je suis doux et humble de cœur. Eh oui, alors le colérique, celui qui est finalement patient comme une grenade, paf, hein, j'attends pas, hein, et toutes sortes de choses, signifiant que le message n'est ni mielleux et ne transperce pas d'un caractère ou d'une prétention d'orgueil. Il n'est ni rempli de dureté critique et de condamnation incendiaire. Ah oui, on l'a vu. Moi, j'ai été obligé à plusieurs reprises de reprendre des chrétiens. Quand je les reprends, je le fais pratiquement jamais. Hein. Vous êtes content de moi quand même. Hein. Alors, vous me rassurez. Mais c'est arrivé, surtout dans les grandes assemblées, où là, eh bien, ça déraillait. Et vous savez que les prophéties qui étaient données, quelque part, eh bien, étaient chargées d'orgueil. Mais non, c'est pas ça. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. C'est mielleux. Le Seigneur vous aime, mes petits-enfants. Vous êtes mes bébés. Enfin, bon, toutes sortes de choses. Hein. Pas rempli de dureté critique. Moi, j'ai dû intervenir à un moment donné où, véritablement, vous allez être puni, vous irez en enfer, et ceci et cela. Prophétie du Seigneur, vous irez gris avec le diable. Ouah. Oh. Hein. Prenez un extincteur, en tous les cas. Hein. Oui. Mais dureté critique, ça, j'ai dû intervenir. Et puis, la condamnation incendiaire, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire il y a un instant. Parce que finalement, vous savez, la prophétie, elle travaille à la conviction et à la repentance du pécheur. C'est pas la peine de leur faire peur. Ils ont déjà peur, ils ont déjà des angoisses, etc., etc. Pour ceux qui veulent se fermer les oreilles et ne pas lire la Bible et entendre parler de Dieu, ils fuient, comme finalement, eh bien, dans le jardin d'Éden. On ne veut pas entendre. Mais pourtant, la prophétie peut être finalement une main tendue en disant « Oui, je connais ta vie. Toi, le pauvre fils prodigue, t'en as fait des bêtises hein, dans ta vie. Ça, c'est sûr. Hein. Tu le sais. Ton père le sait. Mais une chose qui est certaine, ce matin, je te tends la main et je te donne un encouragement prophétique pour qu'il se convertisse. Comment on est venu, nous? Il reste justice, la prophétie ou celui qui parle, en effet. Il reste justice et miséricordieux pour rappeler que la prophétie, eh bien, elle enseigne. Elle donne la connaissance là où la connaissance n'existe pas, ou pas encore. Elle exhorte et elle console. Oui, combien de fois nous avons été malades. Nous avons été troublés au fond de notre cœur et il y a eu une parole de connaissance. Quand nous sommes rentrés dans le culte, nous pleurions. Et puis quand nous sommes sortis, nous étions véritablement dans la paix et la joie. Elle console. Elle console. Il y a une femme qui en voulait à notre cher Néhémie. Vous connaissez l'histoire de Néhémie? Il s'est battu hein, avec, finalement, eh bien, la truelle d'un côté et puis l'épée de l'autre côté. Ça ne doit pas être facile. Hein. Mais Néhémie et Naodia. Elle vivait du temps, donc, de ce gouverneur de Jérusalem, et elle n'avait de cesse d'effrayer, eh bien, Néhémie, et elle cherchait à l'effrayer pour le confondre en faute. Vous lisez ça, hein, ça doit être Néhémie chapitre 6. Relisez, c'est très intéressant. Elle avait la réputation d'être une prophétesse, mais ce qu'elle prophétisait, c'était pour terroriser l'homme de Dieu. Et il y a des choses, ne vous laissez pas terroriser. Dieu ne va pas vous terroriser. Il ne va pas jeter la terreur sur vous. Au contraire, il va vous parler dans les termes qui sont les termes du, bien tout simplement, du caractère de Jésus. Une authentique prophétie se reconnaît toujours car elle est porteuse du sentiment divin, à commencer par le sentiment de l'amour. Oui, Dieu nous aime. Mieux encore, il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il a donné la preuve au monde entier, parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce de l'amour pour les âmes et le salut éternel. Double, finalement, but. Dieu cherche à sauver, et seul l'Esprit, avec un grand E, peut briser les cœurs, susciter une véritable repentance, l'inspiration intense de venir ou de revenir à Dieu, c'est le Fils prodigue, le maître mot étant la grâce. Si vous voulez ajouter un mot avant et après au mot prophétie, c'est le mot grâce, une grâce de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de me parler, Seigneur. Autrement que par la lecture que je peux faire par mon intelligence. Autrement peut-être que d'autres méthodes. Mais au niveau de mon cœur, il y a une chose qui demeure, c'est ton amour, l'amour qui se manifeste dans, manifeste dans la grâce. Alors ouvrir la porte aux prophéties, ça a souvent été décrié dans les églises chrétiennes. On ne veut pas de ces histoires, c'est diabolique, c'est ceci et cela. Ouvrir la porte aux prophéties, douteuse, je dis bien douteuse, suppose préalablement la certitude qu'elle émane bien de Dieu à l'aide des critères évoqués, car en dernière analyse, il faut bien se souvenir, c'est l'équilibre de la personne qui prophétise, c'est l'équilibre de ceux qui entendent, c'est-à-dire la communauté, c'est l'équilibre de l'Église, c'est l'équilibre et la crédibilité. Vous savez ce que c'est qu'un crédit ? C'est quand on fait confiance. Et un crédit que nous allons avoir jusqu'à la fin de notre vie. Parce que nous croyons à Jésus et nous croyons à sa parole, finalement jusqu'au bout, qui assure la vraie prophétique, la vérité prophétique. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure, où Dieu dira par David, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. » Voilà, c'est ça, j'aurai les regards sur toi. Alors, il n'est pas inutile, ou il est utile, de le redire dans 1 Corinthiens. Si quelqu'un croit être prophète, moi qui ajoute, ou spirituel, donc inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'écris est un commandement du Seigneur, méritant obéissance et sagesse d'application. C'est Paul qui dit ça, l'apôtre Paul. Et il avait quand même de l'expérience. Il l'a écrit pour les temps d'hier, son temps à lui, les temps modernes et tout ce que nous vivons, et les temps d'aujourd'hui. Méfions-vous, parce qu'aujourd'hui en politique, on se sert de la prophétie. Il y a des articles qui passent, alors il y a l'intelligence artificielle. Alors là, il va falloir faire très, très, très attention. Mais, vous savez, les hommes d'État, moi je n'ai pas à dire, parce que je ne sais pas, mais quelquefois on a eu des retours où véritablement tous ces dominateurs du monde qui ont fait un petit club là, de jeu de cartes pour bouger un peu les choses. Si vous les écoutez, derrière la crise que nous avons aujourd'hui, il y a tout un arrière-plan religieux. Autant en Russie, autant chez celui là qui pêche des perles sur les bords de la Chine là-bas. Et puis naturellement, le buveur de Coca-Cola aussi. Et puis il y a partout, voilà. Attention, parce que on est en train de mêler pour une population, pour des votes, pour des prises de position politiques, on est en train finalement d'y mêler, comme à travers tous les temps, comme du temps de Caïn et d'Abel, comme après l'histoire d'Israël, qui était toujours là, ballotté tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, où le prophète Élie dira, mais vous clochez des deux côtés. Ouais, on mélange. La chair, on mélange, la politique, on mélange, et bien même la religion, parce que il y a encore beaucoup de monde sur la terre qui croit que finalement Dieu existe, mais quel Dieu s'agit-il ? Nous, notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, il est Dieu, en effet, il est dans le Père est dans le Fils, et le Saint-Esprit, véritablement, c'est lui qui conduit, qui dirige, et il inspire la prophétie, par exemple. Voilà. Que Dieu nous bénisse ! Alors on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle est véritablement une perle. Elle est un joyau. Elle est véritablement la vérité. Elle est en effet lumière et soleil. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons Et nous voulons te demander, Seigneur, si quelquefois nous perdons pied, ou nous perdons de vue, eh bien, les bénéfices, ou le trésor que nous avons dans les dons spirituels, entre autres la prophétie, donne-nous de ne pas être comme des petits-enfants qui courront après toutes sortes de révélations, après toutes sortes, Seigneur, de choses, où là nous pouvons véritablement vérifier, parce que nous avons une parole déterminante, c'est la prophétie, accompagné du don de discernement des esprits. Savoir ce qui vient de Dieu, savoir ce qui vient de l'homme, et savoir ce qui vient tout simplement de l'adversaire. Merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen.